Salut à tous les fidèles de Rétro Taku, c'est déjà le sixième numéro de votre JT du Rétro Gaming. Ce mois-ci, bien sûr, on retrouve vos rubriques préférées, le test, le dossier, la rubrique console et bien sûr, le Rétro Dico. Mais on commence, comme tous les mois, par les news. Et on commence tout de suite avec une très bonne nouvelle pour les lecteurs papier, enfin les livres, vous savez, les trucs avec des pages. Eh bien oui, les éditions Pix & Love nous proposent un superbe recueil de 400 pages sur la Super Nintendo. Il sortira le 31 mars pour un petit peu moins de 50 euros. Autre bonne nouvelle, les Tilt et Joystick, les deux légendes de la presse jeux vidéo, reviennent. Ils ont été rachetés par Anuman Interactive. Ils reviennent très bientôt, donc, dans de nouvelles versions. Et enfin, nous avions parlé de cet ouvrage, il est très gros, hein, vous voyez. Zelda, bien sûr, à l'honneur avec Hyrule Historia. Il était traduit en anglais. Eh bien, ça y est, une version française est en cours de fabrication. Elle sortira cet été. Et c'est Florent Gorge qui se charge de la traduction. Un gage de qualité à n'en pas douter. Allez, on continue tout de suite avec les news, mais en images.
L'éditeur japonais Capcom est réputé pour ses jeux d'arcade des années 80. Profitant de la mode du rétro gaming, Capcom va bientôt proposer une salle d'arcade virtuelle où le joueur pourra collectionner, moyennant quelques euros, des titres arcade mythiques des années 80. Vous pourrez y trouver des jeux comme Avengers, Ghost and Goblins, Trojan, Sidearms ou encore Commando. Le Capcom Arcade Cabinet sera disponible avec 15 jeux sur PS3 et Xbox 360 dès le 21 mai 2013. Doom fait partie de ces jeux qui ont fait évoluer le monde du jeu vidéo et notamment l'univers du FPS. Sorti en 1993, il fut adapté sur de nombreuses machines avec plus ou moins de réussite. Les versions Mega Drive, 32X et Super Nintendo n'étaient d'ailleurs pas franchement réussies. Une nouvelle adaptation de Doom vient de sortir sur une machine de plus de 10 ans son aîné, le Commodore VIC-10, un micro-ordinateur 8 bits du début des années 80. Cette prouesse de programmation est mise à disposition gratuitement. Gunsmoke est un jeu édité sur arcade en 1985. Vous y dirigez un cow-boy devant tirer sur moultes ennemis pour libérer le Far West de la vermine. Le jeu fut adapté sur de multiples machines et commercialisé sur la NES de Nintendo en 1988. C'est notamment en s'inspirant de cette version NES qu'un remake gratuit a été développé pour le PC et il est téléchargeable gratuitement. En 1999, la communauté de rétro-gamers récupère le prototype d'un jeu Atari 5200 jamais sorti, Tempest. La ROM a d'ailleurs été mise à disposition depuis gratuitement. Mais dernièrement, le site Atari Edge vient de mettre en vente 250 exemplaires physiques du jeu avec sa boîte et sa notice. Pour acquérir Tempest, il vous faudra débourser environ 38 euros. La NGDev Team a déjà développé plusieurs jeux sur la console Neo Geo de SNK, comme les excellents Gunlord ou Fast Tracker. Leur prochain jeu s'appelle Neo XYX et sera un shoot'em up. Prévu pour sortir en mars 2013 en format cartouche pour la Neo Geo, Neo XYX sera aussi adapté sur Dreamcast à partir de juin 2013. Le Neo Retro Gaming est aussi une mode actuelle. Cette tendance consiste à créer du nouveau, mais avec des graphismes et un gameplay d'un autre temps. C'est le cas d'Infino. Cet excellent shoot'em up téléchargeable gratuitement sur PC est rempli de références graphiques et de gameplay, rendant hommage à des jeux mythiques comme Gradius, sorti en 1985 sur MSX.
Hey, sympa la déco chez vous. Ce mois-ci, une fois n'est pas coutume, on va tester un jeu sorti sur arcade. Il s'agit de Garou Mark of the Wolves. Je l'ai bien dit, hein? Ouais, allez, on regarde ça.
Garou Mark of the Wolves est pour beaucoup de joueurs des années 90 le meilleur jeu de baston jamais réalisé, alors que d'autres sont restés fans inconditionnels de Street Fighter 3 Third Strike. Voyons pourquoi le jeu de SNK casse la baraque. L'histoire du 8ème épisode de la série Fatal Fury se passe 10 ans après le dernier volet où l'on voyait la mort du boss de la mafia de South Town, G's Howard. Le héros, Terry Bogard, a entraîné Rock Howard, le fils de G's. La mafia de South Town est quant à elle dirigée par Kane R. Highline. Tous les personnages jouables, à l'exception de Terry, sont inédits et certains ont hérité de techniques d'anciens combattants des séries Fatal Fury et Art of Fighting. Les contrôles sont classiques et sont accessibles autant pour les débutants que pour les initiés. Notons le Top 7 qui permet à notre combattant d'être plus fort à un moment du combat, et le Just Defend qui permet de regagner de la vie si on part le coup de l'adversaire à un timing bien précis. Les graphismes sont à vous décrocher la rétine tellement le jeu fourmille de détails, d'explosions et de flammes pendant les combats. Les musiques punk rock collent à 100% avec les personnages associés. Certains ont peut-être reconnu la musique Children de Robert Miles. Comme tous les jeux d'arcade, il est difficile. Les bornes étant faites pour vous faire dépenser de l'argent. Bien que le jeu date de 1999, il fait encore l'objet de tournois, comme par exemple au Stunfest à Rennes. En conclusion, Garou Mark of the Wolves est un titre qui a révolutionné le jeu de baston. À essayer absolument, surtout si vous avez le Xbox Live ou le PSN.
Vous le savez, le rétro gaming, c'est l'art de jouer aux anciens jeux vidéo, parfois sur d'anciennes télés d'ailleurs. Mais c'est surtout l'art de collectionner, bien sûr, et nous sommes allés à la rencontre d'un collectionneur. Parmi les collectionneurs ce mois-ci, c'est le dossier du mois. C'est juste à côté du Mans que nous sommes allés à la rencontre de Mathias Dinobert, alias Bobby. Il est le fondateur de l'association Retrotaku et il nous accueille aujourd'hui dans son antre.
Je suis un grand passionné de rétro gaming et un collectionneur depuis plusieurs années. Et en effet, je suis la plupart des acteurs du milieu dans leurs projets, autant en écriture, en programmation ou en événementiel. Bah, en fait, la collection, j'y suis venu petit à petit. Peut-être d'abord par une frustration de rétro gamer quand j'étais petit, à l'âge d'environ 10 ans. Mes parents m'ont offert un Atari 2600. Et à cette époque, moi, je voulais comme tout le monde une Nintendo, une Master System, comme mes copains. Et au final, bah voilà, ils ont mis 200 francs de moins et j'ai eu qu'un Atari 2600. En revanche, deux ans plus tard, en feuilletant les magazines que mon frère avait achetés, je découvre une nouvelle console qui s'appelle la PC Engine. Enfin, PC Engine à l'époque, parce que j'étais un enfant et je ne savais pas comment on prononçait. Depuis, c'est devenu ma console favorite et j'ai commencé la collection en récoltant toutes ces consoles de la gamme NEC PC Engine que je n'avais pas. Donc les consoles cartouches, les CD, le matériel qui est assez rare. Je faisais venir du Japon et c'est comme ça que j'ai eu à peu près toutes les machines qui sont en vente officiellement dans le catalogue NEC. Je ne me suis pas arrêté à la NEC car mes amis avaient des Mega Drive, des Super Nintendo et j'ai voulu aussi avoir ma propre Mega Drive, ma propre Nintendo. Et puis il y avait la fameuse Neo Geo qu'on pouvait lorgner dans les feuilles, dans les pages des catalogues et j'ai commencé à acheter ma première Neo Geo. Ce qui représente aujourd'hui une collection de un peu plus de 200 consoles, un peu plus de 2000 jeux, du matériel en boîte, des manettes, des quintupleurs, des déshonneurs, et puis des PLV pour environ 3000 pièces.
En bon collectionneur, Bobby recherche la pièce rare qui différenciera sa collection de celle des autres. Il nous les présente.
Parmi toutes ces pièces, il y en a trois dont je suis particulièrement fier. La Kotobi Engine qui a été fabriquée en partenariat avec Kotomi, qui est une NEC Duo. C'est une pièce exceptionnelle, il n'y en a qu'une au monde. C'est une NEC Duo avec un lecteur US au-dessus et Jap en dessous. Tout ça sur la même carrosserie. Une autre de mes pièces est une console un peu plus récente. C'est la Sega Dreamcast. Mais celle-ci est dorée à leur fin. Il y en a peut-être deux ou trois dans le monde maximum. Et là, peut-être la dernière des pièces les plus importantes de ma collection serait le croisement de deux de mes passions, qui est la BD, l'illustration couleur et le rétro gaming. Et c'est donc un dessin réalisé par Marc Hardy, une commande que je lui ai passée, où il met en scène donc son héros Pierre, de sa série Pierre Tombale.
Mais pour Mathias, le rétro gaming, ce n'est pas que la collection, il mène de front deux grands projets.
J'ai deux grands projets en cours. Le premier, c'est Billy Boy. C'est un jeu sur console NEC, donc une programmation. Et ça met en scène un petit personnage qui est Monsieur Tout-le-Monde, Billy Boy. Et donc, c'est l'aventure de la vie. Au début, il est jeune, il doit se battre avec ses amis, c'est la sociabilisation. Ensuite, c'est les études. Après, il va grandir, il va avoir des enfants, c'est l'éducation, la parentalité. Puis, ça va être dans le monde du travail, il va falloir se battre. Puis, par la suite, la vieillesse, jusqu'à la mort, comme ça. Mon deuxième projet, c'est de créer un vrai musée, un musée communal avec la ville du Mans, pourquoi pas, pour pouvoir continuer à partager ma passion avec le plus grand monde.
Hey, salut, t'es qui toi? Hey, mais je suis une cartouche de jeu! Non, j'arrête, je suis pas doué pour ça. Ce mois-ci, dans Retrotaku, on vous propose de découvrir une console de jeu que vous ne connaissez sûrement pas. On met ses cartouches d'ailleurs dedans. C'est le Videopack de Philips. On y va.
Le Videopack est un concept original de Magnavox sorti en 1980 en France. Son premier nom est Odyssey 2, et c'est donc le successeur de l'Odyssey, à savoir la première console de salon au monde. Philips la baptisera Videopac lors du rachat de la division jeux de Magnavox. Elle fait partie de la deuxième génération de jeux vidéo et reste pour le moins insolite. Elle est équipée d'un clavier intégré et dispose de deux manettes, un bouton, 8 directions directement câblées à l'électronique. Il existe également une version nommée G7200, embarquant un écran noir et blanc de 9 pouces. Les cartouches de jeu disposent d'une poignée qui en facilite le changement. Les premières cartouches permettaient pour la plupart de lancer plusieurs jeux. On utilise alors le clavier pour en faire la sélection. Parmi les jeux connus, on retrouve de nombreux titres à succès, comme Frogger ou Qbert. On trouve des concepts totalement inédits, comme la conquête du monde ou la quête des anneaux, jeu de plateau où la cartouche fait office de maître de jeu. Musique, un jeu permettant d'apprendre à jouer au piano, avec un cache à poser sur le clavier, ou encore The Voice, jeu de chant avec une extension vocale à brancher sur la console. Bien qu'ayant de bonnes capacités techniques, des jeux innovants et de superbes boîtes de jeux, le Videopac n'a pas eu grand succès, surtout si on la compare à sa principale concurrente, l'Atari 2600. La faute sûrement à sa ludothèque restreinte à 60 titres.
Alors pour la dernière séquence, je suis un petit peu ennuyé, parce que ce mois-ci, on va vous parler de bites. Oui, je sais, enfin elle en a 16 quand même. Allez, on découvre ça, c'est dans le rétro-dico.
Un bit est une unité élémentaire de mesure informatique. Un bit ne peut avoir que deux valeurs, 1 ou 0. Il est à la base de la lecture de l'information dans les consoles et les ordinateurs. À l'époque de l'avènement du jeu vidéo, dans les années 90, les fabricants se sont fait une spécialité de l'utilisation du mot bit pour parler de la puissance de leur console. Plus un processeur peut lire de bits à la fois, plus il traite rapidement l'information. La console gère alors le jeu de façon plus fluide, avec des graphismes plus élaborés et un son de meilleure qualité. On avait alors droit à des sorties de consoles en grande pompe, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Mais ce qui était valable avant ne l'est plus aujourd'hui. L'utilisation de ce terme a pris fin à l'époque de la Dreamcast. Aujourd'hui, l'architecture d'une console repose plus sur l'utilisation de sa mémoire et de sa bande passante que sur le nombre de bits de son microprocesseur.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce sixième numéro de votre JT préféré du rétro gaming. Pas remarqué, on est les seuls. Hein. Le mois prochain, on revient avec le numéro... 7, c'est ça! Eh bien, écoutez, en attendant, vous pouvez nous contacter par mail, jt@retrotaku.com, et bien sûr, suivre l'ensemble de l'actualité rétro gaming sur retrotaku.com. On se retrouve le mois prochain. Ciao!